Voici les titres du journal.
8 entreprises ferroviaires vaudoises et les transports publics fribourgeois ont inauguré hier à Villeneuve un centre roman d'entretien des bogies. Ces pièces essentielles se trouvent dans les trains, elles servent de lien entre les châssis et la voie. Le canton de Vaud a décidé hier d'offrir le dépistage du Covid aux étudiants des hautes écoles et universités. Ce test leur permettra d'acquérir une attestation obligatoire pour assister aux cours. 5 viticulteurs valaisans ont créé Vitis Equitas, une fondation qui a pour objectif de soutenir une branche en difficulté. Elle proposera du coaching pour les jeunes entrepreneurs, des bourses d'études pour les étudiants et des primes bonus pour les apprentis. Et puis enfin, l'édition 2021 du Trail des Dents du Midi est placée cette semaine sous le signe de la fête. Organisée pour la 50e fois cette année, le tour du célèbre massif chablaisien continue d'attirer de nombreux coureurs des quatre coins du monde.
Le temps sera assez ensoleillé cet après-midi et pour ce week-end, on attend du soleil pour demain et de la pluie pour dimanche. Météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Léa Journeau. Bonjour Léa.
Bonjour Axel, bonjour à tous. 9 compagnies de transport public collaborent pour l'entretien de leur matériel ferroviaire. Elles ont investi 15 millions dans une entreprise sise à Villeneuve. Un investissement pour lequel elles ont bénéficié d'un soutien du canton de Vaud qui leur a accordé une garantie d'emprunt de 12,5 millions de francs. Nouria Gorité, présidente du Conseil d'État au micro de Bertrand Girard.
Le canton de Vaud, dès le départ, a disons, soutenu cette idée parce que nous sommes un canton qui a beaucoup de compagnies de transport régionales auxquelles nous sommes non seulement très attachés, mais qu'on développe. Et un composant essentiel de ces trains, ce sont ces bogies, hein, finalement, sur lesquelles reposent les wagons. Et l'entretien de ces bogies devient de plus en plus complexe en vue d'assurer la sécurité des passagers. Et donc, cette complexité est là pour corollaire un besoin de compétences pour l'entretien de ces bogies. Et ces compagnies de transport, elles n'ont pas le volume, si vous voulez, suffisant pour développer au sein de chaque compagnie de transport un centre de compétences. Et donc, à défaut d'avoir un centre de compétences mutualisé entre ces entreprises, alors elles auraient été dépendantes des constructeurs qui, eux, auraient évidemment saisi l'occasion de renchérir les prix. Dès lors que ces compagnies de transport, elles sont financées principalement par les pouvoirs publics, eh bien, nous avons jugé nécessaire de pouvoir créer un centre de compétences pour unir ces forces et développer le savoir-faire, proposer des places de travail, des places d'apprentissage et ainsi avoir suffisamment de volume d'entretien pour pouvoir contenir les coûts.
D'avoir comme ça 9 entreprises, principalement vaudoises mais aussi fribourgeoises qui collaborent, déjà c'est quelque chose qui n'est pas forcément très courant. Comment vous voyez ce rapprochement ?
Alors d'un très bon œil, les compagnies vaudoises, elles ont commencé à se rapprocher quand elles ont dû changer leur matériel roulant et elles ont fait un appel d'offres commun. Elles se sont mises d'accord sur le cahier des charges, un peu ce qu'elles voulaient comme matériel roulant, comme wagon donc. Et puis elles ont donc appris à travailler ensemble. Elles se sont rendues compte que finalement, c'est des entreprises certes différentes, mais elles ont le même métier, elles transportent les mêmes passagers, elles sont financées par les mêmes financeurs et donc elles ont les mêmes métiers hein, en leur sein et la mutualisation, elle a commencé à ce moment-là. Elles ont identifié d'autres centres de mutualisation possibles et notamment, eh bien, à la faveur de ce constat hein, que ces bogies coûtaient très cher dans leur entretien, eh bien, elles se sont dit mutualisons nos efforts, mutualisons nos compétences et comme ça, on est plus fort.
À noter qu'une quinzaine d'employés travaillent déjà depuis octobre sur le site. L'entreprise espère à terme doubler ce nombre afin de pérenniser ce savoir-faire essentiel sur le plan de la sécurité. Le groupement des pédiatres vaudois s'inquiète des mesures liées au Covid-19 pour les enfants, alors que le virus lui-même est, je cite, le plus souvent bénin pour cette tranche de la population. Il a diffusé un manifeste dans lequel il demande une poursuite sans contrainte de l'école. Interrogé par 24 heures, le président du GPV, Claude Bertoncini, justifie la publication de ce manifeste au vu de l'augmentation importante des problèmes qui découlent de la crise sanitaire chez les enfants, entre anxiété, obésité, isolement et autres tensions familiales. Il remarque également que les enfants sont prétérités dans l'accès aux soins, en prenant l'exemple d'opérations repoussées car le personnel soignant est mobilisé avec les adultes.
Finalement, ce sera gratuit.
Les étudiants des hautes écoles et universités vaudoises se verront offrir par leur canton le dépistage du Covid, test qui leur permettra d'obtenir une attestation pour assister aux cours. Parce qu'on le rappelle, le certificat Covid sera exigé dans ces institutions. Ce dispositif gratuit s'applique à toutes les hautes écoles publiques ou privées subventionnées du canton. Le Conseil d'État a dit vouloir ainsi garantir le droit fondamental à la formation en présentiel pour les personnes non vaccinées ni immunisées. Sauf que les centres de tests sur les campus ne seront pas prêts avant le 4 octobre et que les tests deviennent payants dès le 1er octobre. Écoutez Cécile Amarel, conseillère d'État vaudoise en charge de la formation.
Comme dans toutes les universités, dans toutes les hautes écoles de Suisse, il y a une période de mise en œuvre qui est en train de se mettre en place. Celle dans le canton de Vaud est relativement courte et nous pourrons assurer en fait qu'à partir du tout début octobre, en fait, le système va être dans son rythme de croisière. Donc, en attendant, il s'agit de 2 semaines, et bien évidemment, les étudiants qui ne souhaitent pas se faire vacciner et qui ne peuvent pas, se faire tester de manière classique, ils auront de toute façon l'enseignement commodal qui leur sera garanti pour tous les cours qu'ils ont choisis. Et puis par ailleurs, il y a un régime d'exception pour les cas pratiques, les séminaires pratiques dans lesquels ils pourront aller s'ils sont munis d'un masque et des gestes barrières.
On sait maintenant depuis une semaine que les tests seront obligatoires. N'était-ce pas possible d'anticiper pour que le dispositif soit opérationnel à la rentrée? C'est la question posée à Cécile Amarel.
Je crois qu'aujourd'hui, l'ordonnance, vous le savez, elle a été très rapide. Elle a été rendue de manière assez rapide. Et puis ensuite, les universités, les autres écoles ont vraiment travaillé d'arrache-pied avec le médecin cantonal pour mettre en place un système qui, disons, a été, extrêmement rapide à se mettre en place. On parle juste de 2 semaines pour mettre en œuvre, en fait, des systèmes de pooling de plusieurs milliers de personnes. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait une période un tout petit peu de latence pour justement assurer qu'on puisse vraiment donner les prestations les plus optimales possibles.
Des propos recueillis par nos confrères de LFM. Les tests seront salivaires et réalisés par groupe ou poule afin de pouvoir suivre la demande. Leur gratuité est assurée jusqu'au 31 octobre. Ensuite, la situation sera réévaluée, notamment au regard de l'évolution de la pandémie et d'éventuelles décisions du Conseil fédéral. L'attestation que recevra alors l'étudiant sera valable 1 semaine. Quant aux masques, ils resteront obligatoires durant les cours. Un dispositif semblable est mis sur pied également à Genève pour les universités, les hautes écoles spécialisées et l'Institut des hautes études internationales et du développement, et même situation du côté de la HESSO Valais-Vallis, selon une information du Nouvelliste.
Et du côté de la Haute École Pédagogique du Valais.
Le certificat Covid sera obligatoire pour les étudiants dès le 20 septembre, et le port du masque sera de rigueur pour tout déplacement. La HEPVS a précisé aujourd'hui les modifications apportées à son plan de protection suite aux récentes annonces du Conseil fédéral. Un plan où étudiants et membres du personnel ne seront pas logés à la même enseigne. Le personnel, lui, ne sera pas tenu d'avoir un certificat Covid en poche. Les non-vaccinés ou non-guéris seront toutefois obligés de porter un masque en permanence et de rester à 1,5 mètre des autres personnes. L'école précise en outre que des sessions de vaccination et de tests seront organisées pour les personnes immatriculées durant une phase transitoire. Les étudiants pourront aussi assister aux cours en direct en ligne. Et nous recevrons ce soir dans le club à 17h le directeur du site de Saint-Maurice de la HEPVS. Des travaux de nuit sont prévus la semaine prochaine à la jonction Martigny-Fuilly. Les bretelles d'entrée et de sortie de Giratoire Nord ainsi que la route cantonale seront fermées à toute circulation du 20 au 25 septembre entre 20h et 5h. Des déviations seront mises en place.
Nouvelle opposition dans le dossier d'extension de la carrière des Freinets entre Montet et Massonger.
Le comité citoyen régional contre l'extension du périmètre d'extraction remet en cause le projet de zone de danger géologique sur certains secteurs. Pour l'association, 2 problèmes. Tout d'abord, ces zones de danger géologique se trouvent sur la langue de rocher de la carrière FAMSA, démontrant clairement les risques à exploiter les sols dans ce coin-là. Le comité demande donc des explications. Pourquoi ces zones sont-elles signalées seulement maintenant, après l'acceptation de l'extension de la carrière FAMSA? Et la deuxième problématique, pourquoi n'y a-t-il aucune zone de danger annoncée autour du nouveau périmètre d'extraction prévu? Pour le président de l'association Marc-Henri Tantoret, quelque chose cloche.
Cette façon de faire, de saucissonner, de transmettre les informations après coup. Lors de la votation, si on regarde sur le dossier FAMSA, dans l'impact environnemental, ne figure pas la problématique de la zone des dangers. Or, c'est quand même ce bureau qui est en charge depuis 1996 de l'impact environnemental pour la commune de Montet, Massonger et la FAMSA. Pourquoi n'ont-ils pas transmis cette information aux gens alors que c'était quand même un sujet de votation et d'inquiétude? Pourquoi après coup? On peut se poser la question de la virulence, la rapidité de travailler de nos élus.
Vous remettez en cause la transparence.
La transparence, quand on travaille pour la commune, on travaille pour le public. Donc indirectement, les élus travaillent pour nous. Donc il y a une totale opacité des informations qui n'est pas transmise à la population. Et c'est quand même problématique, à mon avis.
De son côté, Stéphane Coppet, président de Montet, accueille cette opposition avec calme. Pour lui, le délai dénoncé par les opposants s'explique facilement.
Non, alors en aucun cas il y avait une volonté de cacher quoi que ce soit. Du moment que Massonger avait mis en quête, les opposants actuels savaient pertinemment qu'il y avait une suite de zone de danger sur la commune de Monté. Cette mise à l'enquête concerne l'ensemble du territoire et l'ensemble des zones de danger géologique de la commune. Et donc, nous avons dû nous assurer que le dossier était complet avant de le transmettre au canton pour la procédure. Ça nécessitait des compléments d'analyse dans différentes zones de la commune, alors pas directement liées à cette zone FAMSA, cette carrière. Par contre, dans d'autres emplacements de notre territoire, une fois le dossier complet et terminé, nous avons pu mettre à l'enquête, certes, avec quelques années de plus que la commune de Massonger, mais ça n'a pas apporté à conséquence par rapport à ce dossier.
Des propos recueillis par nos confrères de Rhône FM. Quant à savoir si de nouvelles zones de danger géologique pourraient apparaître d'ici quelques années, Stéphane Coppen ne se positionne pas. Selon lui, pour l'instant, les analyses rendues sont complètes.
La fondation Vitis Equitas a vu le jour en Valais.
5 viticulteurs se sont unis pour faire face à plusieurs menaces qui planent sur leur profession, comme le manque d'attrait auprès des jeunes, le climat ou encore des normes de plus en plus exigeantes. Pour venir en aide à leur secteur et après de mûres réflexions, la fondation Vitis Equitas a été créée. Le président et membre fondateur Éric Germanier nous explique son fonctionnement.
On est 5 fondateurs et chaque fondateur a participé au capital de la fondation qui se monte à 50 000 francs. Ça, ce sont les fondateurs qui l'ont mis et à fond perdu. Après, la fondation, elle se veut ouverte à tout le monde. Chaque personne, les gens qui souhaitent s'investir par des projets, par de la participation de la fondation est ouverte. La seule chose qu'on a prévue au niveau statutaire, c'est que dans le conseil fondation, il devra rester une majorité de viticulteurs pour garder cet esprit.
Garder un esprit viticulteur, mais aussi durable et surtout équitable. On retrouve le président et viticulteur Éric Germanier.
Absolument, absolument. Équitable, ça veut dire équitable pour tout le monde. Ça veut dire équitable pour le vigneron, ça veut dire équitable pour l'acheteur de raisin et le transformateur, ça veut dire équitable pour le vendeur, le metteur en marché. Et le consommateur, à la fin de la chaîne, c'est équitable pour tout le monde. On doit oublier personne dans cette chaîne, sinon cette chaîne sera...
Le consommateur n'est d'ailleurs pas oublié. La fondation s'est entourée de lagrappe.ch, un site valaisan qui offre un service de livraison de vin à domicile. Un sujet réalisé par Guillaume Abbé. De l'usage élargi du certificat Covid et la perspective de faire payer les tests ont eu deux effets, une recrudescence des vaccinations et de la grogne. Les manifestations contre les mesures anti-Covid se multiplient. Le Conseil fédéral en séance aujourd'hui pourrait revenir sur sa décision de faire payer les tests de dépistage dès le 1er octobre ou différer cette option pour permettre au plus grand nombre d'être complètement vaccinés avant de faire passer à la caisse. Les pressions en ce sens sont multiples. À Berne, les explications de Serge Jubin.
Lorsqu'il doit prendre des mesures de lutte contre la pandémie, le Conseil fédéral est constamment sous pression. Il a démontré qu'il s'est y résisté. Pourtant, c'est une nette majorité du Parlement, tous bords politiques confondus sauf au PLR, qui met le doigt sur un problème de timing. Il semble y avoir une frange importante de la population qui a décidé, sur le tard c'est vrai, de se faire vacciner, qui sollicite ces temps la première dose mais qui devra attendre mi ou fin octobre pour la deuxième, et donc le certificat Covid. Des gens qui ont fait l'effort de passer à la vaccination et qui devraient payer des tests en octobre, ce n'est pas juste et peu judicieux, a-t-on souvent entendu cette semaine. Ainsi, l'UDC demande de sursoir à l'entrée en vigueur des tests payants et même d'abandonner cette idée. On peut être surpris de cette croisade quand on sait que ceux qui l'ont imposé au Conseil fédéral, ce sont les UDC Parmelin et Maurer avec les deux ministres PLR. Il y a aussi une pétition signée par plus de 250 000 personnes qui demandent de renoncer aux tests payants jugés antisociaux. Le Conseil fédéral reviendra-t-il sur sa décision? Aujourd'hui déjà ou vendredi prochain? Davantage que les pressions de la semaine, le Conseil fédéral pourrait craindre que la grogne renforcée par les tests payants puisse porter préjudice au soutien à la loi Covid-2 soumise au peuple en novembre. On en saura plus dans l'après-midi.
Merci Serge Jubin.
La corruption n'est pas un phénomène très répandu en Suisse.
Le pays se distingue par la confiance élevée de ses citoyens envers les autorités. Le Conseil fédéral a pris connaissance aujourd'hui du rapport 2018-2020 du groupe de travail interdépartemental pour la lutte contre la corruption. Ce groupe a élaboré une stratégie pour la période 2021-2024. Celle-ci se limite pour l'essentiel à l'administration fédérale, mais elle doit servir de point de référence pour les cantons où la lutte contre la corruption au niveau international. Au total, 11 objectifs et 42 mesures pour améliorer cette lutte. Elle s'articule autour de la prévention, la détection et la répression. Fin 2024, le Conseil fédéral dressera le bilan de cette stratégie et décidera de son éventuel développement. Les services de streaming comme Netflix, HBO ou Disney+ devront passer à la caisse. Ils devront consacrer au moins 4% de leurs recettes helvétiques au cinéma suisse. Le conseiller national s'est finalement rallié hier au Conseil des États. Le montant estimé 18 millions de francs selon la porte-parole de l'Office fédéral de la culture. À l'étranger, la junte au pouvoir en Birmanie va juger en octobre l'ancienne dirigeante Aung San Suu Kyi, pour corruption, a déclaré aujourd'hui son avocat. Il défend déjà sa cliente dans plusieurs affaires qui pourraient la conduire en prison pendant des décennies. L'accusée est assignée à résidence depuis qu'elle a été renversée par l'armée lors d'un coup d'État en février, déclenchant un soulèvement de masse et une répression brutale de la dissidence. La lauréate du prix Nobel, âgée de 76 ans, est actuellement jugée pour violation des restrictions sanitaires liées au Covid-19, pour avoir importé illégalement des talkie-walkie et pour sédition.
En Italie, il faut maintenant être doté d'un pass sanitaire pour travailler.
Le gouvernement a décidé que le papier serait obligatoire autant dans le secteur privé que public dès le 15 octobre. Seuls les retraités, les femmes et hommes au foyer ainsi que les chômeurs peuvent donc choisir de ne pas se faire vacciner. Avec cette mesure, le gouvernement espère encore renforcer la campagne de vaccination dans le pays. Et Derek Chauvin est à nouveau devant le juge depuis hier. Le policier condamné pour le meurtre de George Floyd est soupçonné d'avoir infligé des violences à un ado de 14 ans en 2017. Il aurait notamment frappé le jeune à plusieurs reprises à la tête et comme pour George Floyd, il l'aurait immobilisé à l'aide de son genou. Derek Chauvin a plaidé non coupable. Athlétisme, le relais féminin suisse du 4x100 mètres va changer d'entraîneur. Raphaël Monachon a en effet décidé de quitter ses fonctions. Le coach du Jura bernois veut consacrer plus de temps à sa famille et il estime aussi qu'il est temps de passer le témoin en vue des prochains Jeux Olympiques à Paris en 2024. En poste depuis près de 4 ans, l'ancien sprinter a permis aux Helvètes de terminer 4e dans 3 compétitions majeures, les championnats d'Europe en 2018, les mondiaux l'année suivante et les JO cet été à Tokyo. La fédération suisse est désormais à la recherche d'un successeur pour la saison prochaine.
À Champéry, le Trail des Dents du Midi célèbre cette semaine sa 50e édition.
Organisé pour la première fois en 1963, le Tour du Massif Chablaisien a été l'un des précurseurs dans le domaine des courses en montagne. Alors que ce sport a le vent en poupe depuis plusieurs années, l'épreuve bavalaisane a pour sa part traversé les décennies. Le tracé de 57 km agrémenté par 3700 mètres de dénivelé est devenu un classique. Gilbert Caillet-Bois, président du comité d'organisation du Trail des Dents du Midi, revient sur les changements qui ont marqué l'événement depuis 1963.
Et le gros changement, il est là. C'est qu'à une époque, c'était des gens de la région qui participaient. Ils connaissaient les terrains dans lesquels ils s'engageaient. Ils connaissaient les conditions. On le voit aujourd'hui, on est à Champéry, il ne fait pas très beau. Et ils n'avaient pas de soucis. Ils géraient les situations. Et aujourd'hui, en tant qu'organisateur, ce qui a changé, c'est que là où il y avait 100 coureurs, on en a presque 900. Et puis là où il n'y avait que des gens qui étaient habitués à parcourir la montagne, aujourd'hui, on a des super athlètes, mais pas forcément des gens qui sont conscients du terrain qu'ils pratiquent et puis des conditions qu'il peut y avoir. Et ça, en tant qu'organisateur, c'est un gros changement. Parce que ça veut dire qu'on doit rendre les choses beaucoup plus professionnelles, on doit y intégrer beaucoup plus de sécurité et on doit prendre en compte le fait qu'une partie des coureurs doivent être accompagnés dans ce tour.
Avec plus de 900 participants attendus au départ demain à Champéry, le Trail des Dents du Midi a encore fait le plein d'inscriptions. Pourtant, cette année, certaines courses ont plus de mal à attirer du monde. Comment expliquer le succès de la manifestation chablaisienne? Écoutez la réponse de Jacques Michaud, membre du comité d'organisation du Trail des Dents du Midi.
Je pense que le fait d'être là depuis très longtemps, et puis on reste quand même dans le plus beau pays du monde, les Dents du Midi, je pense qu'il y a beaucoup qui nous les envient, et puis on a un parcours qui est fantastique, c'est avec partir de Champéry, faire le tour complet, passer par Salenf, passer sur la Lune au col de Suzanf, redescendre, c'est vrai que c'est magique. Donc je pense que cette chose fait qu'on n'a pas de la peine à remplir.
Des propos recueillis par Julien Traxel. Cette 50e édition du Trail des Dents du Midi est donc prévue demain à Champéry. Les premiers départs seront donnés à 6h au centre de la station.
En hockey sur glace, Lausanne et Genève Servette vont se retrouver ce soir pour la première fois de la saison.
Les deux formations lémaniques ont rendez-vous dans la nouvelle patinoire de Malais, un lieu qui semble parfaitement convenir aux Genevois. Depuis l'inauguration du site il y a 2 ans, les Aigles ont toujours gagné, soit une série de 6 victoires d'affilée en terre vaudoise. Autre élément spécial dans cette confrontation, le retour de plusieurs ex-joueurs du LHC dans la capitale olympique. C'est notamment le cas de Benjamin Antonietti qui a rejoint Genève Servette après avoir disputé plus de 500 matchs sous le maillot lausannois. Comment aborde-t-il ce match face à son ancien club qu'il avait déjà affronté lors de la préparation? Écoutez la réponse de Benjamin Antonietti.
Bah, tant mieux qu'il y ait déjà eu ce match de préparation, comme ça c'est fait, c'est passé. C'était bizarre la dernière fois, mais là je sens que c'est beaucoup moins bizarre et puis moi ouais, je me réjouis de jouer là-bas. Je sais que les années passées à Lausanne, c'est vrai que c'était un peu différent parce que finalement on avait très peu de joueurs de la région, il y avait voilà, très peu de gens, de joueurs qui étaient investis à fond on va dire dans ce genre de derby, mais là j'ai l'impression qu'à Genève c'est un peu plus excitant, qu'il y a plus de gars de la région, de gars de Genève et que là on sent tout de suite c'est un peu plus électrique.
Benjamin Antonietti au micro de nos confrères de Radio Lac. Le coup d'envoi de ce derby entre Lausanne et Genève-Servette sera donné à 19h45 à Malais.
Vous dites comment, vous, trail ou trail? C'est ça qui vous a fait rire, Léa, tout à l'heure? C'est ça?
Trail, effectivement.
Ah, c'est le trail, d'accord, parce que moi j'ai dit trail. Bon.
Mais les deux sont justes, hein.
D'accord,
mais à chaque
merci.
Fois ça me fait rire.
Merci.
Retrouvez toute l'actualité en podcast et en vidéo sur radiochablais.ch. La météo avec Store Chablais. Pour vos volets et moustiquaires, storechablais.ch, partenaire Stobag.
Le temps sera assez ensoleillé en plaine pour cet après-midi. Par contre, en région de montagne, ça sera plutôt en partie ensoleillé avec des cumulus qui vont se développer en cours de journée. Il va faire au maximum 22 degrés en plaine, 19 à 1000 mètres. Pour ce week-end, eh bien, tout d'abord, un temps ensoleillé pour demain samedi avec des cumulus sur les crêtes l'après-midi. En fin d'après-midi, de plus en plus de nuages par l'ouest et les premières précipitations sont attendues en fin de soirée ou dans la nuit. Et puis dimanche matin, un temps très nuageux est attendu avec des précipitations étendues plus marquées sur les reliefs. Pour avoir un peu de soleil, il faudra patienter jusque dans l'après-midi puisque Météo Suisse nous annonce de plus en plus d'éclaircies par l'ouest. Pour ce week-end, les températures maximales 22 degrés en plaine, 20 à 1000 mètres et 14 degrés à 2000 mètres. La météo à 6 jours, radiochablais.ch.